Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel tout en musique et tout en hommage à l'icône de la pop culture mondiale de la fin du XXe siècle, Michael Jackson. Et ce matin, je reçois deux spécialistes des musiques noires américaines, deux fans assumés de Michael Jackson, François Allard et Richard Lecoq, qui viennent de publier un livre dans la série La Totale chez EPA, où ils décortiquent les 263 chansons et 41 clips du roi de la pop qui aurait eu 60 ans aujourd'hui. Et près de 10 ans après son décès, Michael Jackson fait son entrée dans les grands musées d'art contemporain. On en parle dans un instant. Le réveil culturel, c'est tous les jours à la radio à 6h ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast ou si vous préférez nous écouter en différé et en passant par le site franceculture.fr. Corinne Amar, la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et à la prise de son ce matin, Cédric Châtelut.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Ben, Michael Jackson, il était très jeune et comme ce matin nous recevons deux journalistes qui ont beaucoup enquêté sur Michael Jackson, enfin ils ont enquêté sur l'objet de quelqu'un qu'ils ont aimé très jeune, je suppose François Allard et Richard Lecoq, vous êtes des fans avant d'être des journalistes.
Oui, bien sûr, moi c'est venu très très tôt, c'est surtout l'aspect visuel, je me souviens enfant quand le clip de Billie Jean est passé à la télévision et que j'ai vu ce jeune homme qui marchait sur des dalles et qu'il savait les allumer. Et tout ce qu'il touchait, il pouvait allumer tout ce qu'il touchait. Moi-même, enfant, je ne comprenais pas pourquoi. Quand je me rendais à l'école, je ne pouvais pas allumer moi-même les dalles et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de magique.
Et elle a tout de suite compris que vous étiez, et l'un et l'autre, quadragénaire. Donc vous êtes né avec, effectivement, les clips de Michael Jackson à la télévision. Je suppose que pour vous, c'est la même chose, Richard Lecoq.
Oui, bien sûr, c'est à la même époque, on est en 83, l'album Thriller est déjà sorti, les singles en fait déboulent dans les charts comme des coups de canon, et il y a aussi le clip de Beat It, dans lequel on voit deux gangs qui s'affrontent, et il y a un pacificateur qui a un blouson rouge, avec des zips partout, et qui apporte la paix entre ces deux gangs qui s'opposent, et on se dit, ouais, c'est un petit peu le super-héros nouveau, parce que moi j'ai 8 ans, je suis un petit peu encore dans cette époque de super-héros, de tout ce qui est Marvel et autres, et Jackson c'est un peu ça, rien que aussi de par son image de son look aussi à l'époque, parce qu'on est en 83 et le look est déjà très important. On est sur un personnage qui est vraiment au-dessus de la mêlée.
Vous insistez sur les clips, sur l'image, sur Michael Jackson contrôlant sa propre image, mettant en scène ses chansons. Ici, on parlait, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par Ben. Ici, on parlait du chanteur Michael Jackson.
Un interprète incroyable qui, en fait, déjà très tôt démontre une maturité dans sa voix, et à tel point que quand il faisait ses premiers concerts avec ses frères, tout le monde
est-il utile de le rappeler, ouais.
Voilà, et tout le monde se disait, bah, c'est pas possible, c'est un nain de 35 ans en fait qu'on est en train de voir. C'était un petit peu le surnom qu'il avait entendu dire sur lui à l'époque, parce que il avait une telle maturité, une telle façon de s'approprier des chansons avec des émotions déjà très matures. Et le meilleur exemple, c'est Who's Loving You, de Smokey Robinson, des Miracles, à tel point que la chanson, il va carrément la faire sienne en fait.
Ben, on la connaît pas trop cette chanson.
Ben, c'est une chanson assez particulière. Elle arrive un peu dans un repositionnement de la firme Motown, qui veut envoyer Diana Ross à la quête d'un Oscar. Aucune artiste noire féminine n'a obtenu le premier rôle d'interprétation, et donc parallèlement à ça, Berry Gordy décide de lancer la production d'un film qui s'appelle Lady Sings the Blues, et donc touche au monde du cinéma. Et c'est comme ça que il va recruter Michael Jackson pour chanter le thème du film Ben qu'on vient d'entendre, et il sort un peu Michael du groupe. Parce que il faut contrer aussi la MGM Records, qui vient de sortir un groupe de petits jeunes blancs qui s'appelle The Osmonds, qui font un peu concurrence au Jackson 5. Ils viennent de sortir un des membres du groupe The Osmonds, qui s'appelle Donny Osmonds, qui part en solo. Et donc Berry Gordy pense qu'il est temps de sortir Michael du groupe pour lui aussi chanter en solo.
Tellement que c'était évident que c'était bien sûr Michael Jackson qui devait sortir du groupe des cinq frères.
Bien sûr, si vous regardez les Ed Sullivan Show, vous verrez que la caméra, elle est captivée par ce jeune qui bouge comme personne. Les frères, bien sûr, il y a toujours une présentation très rigoureuse de chacun des frères, mais pour le reste de la chanson, il virevolte, et la caméra n'a de cesse d'avoir un focus sur ce personnage qui est absolument déjà très très puissant.
Alors, la vocation de chanteur, elle existait chez l'enfant Michael Jackson, ou c'est vraiment quelqu'un qui a été formé par son père, cadré par Benny Gordy à la Motown?
La vocation, elle est déjà en fait de la famille Jackson, à savoir que déjà très tôt, les quatre frères aînés de Michael commencent à créer un petit groupe. Ça commence le jour où le poste de télé tombe en panne, et la mère de Michael Jackson, enfin la mère, donc Catherine Jackson, est une grande fan de musique country, et donc, alors que la télé est en panne, elle leur apprend des chants, donc ils commencent à chanter comme ça. Après, de là, naît le groupe, donc avec les quatre premiers frères de Michael Jackson. Et après, le petit Michael voit tout ça, il est fasciné, et puis un jour, à l'école, il interprète Climb Every Mountain pour sa classe, lors d'un gala de fin d'année, et tout le monde se rend compte du potentiel. Et il y a aussi une autre histoire, c'est que sa mère raconte que très jeune, il est aussi fasciné non seulement par le chant, mais aussi par la danse, parce qu'au rythme de la machine à laver, il commence à se trémousser et à suivre ce rythme complètement syncopé et particulier, et qui fait que, voilà, je pense que son amour pour le rythme vient de là, et de là vient aussi sa fascination pour tous les grands danseurs, de James Brown à Fred Astaire. C'est aussi un grand écart d'influence.
Vous avez enquêté très sérieusement sur Michael Jackson, François Allard et Richard Lecoq, c'est pour ça que vous signez cette totale Michael Jackson chez EPA. Comment vous vous êtes connus? Est-ce que c'est Michael Jackson qui vous a réunis? Si je comprends bien, François Allard, vous venez de Charleville-Mézières. Richard Lecoq, vous êtes plutôt de Cergy. Ouais. Comment vous êtes rencontrés?
À l'aube des années 2000, eh bien, Richard et moi, nous avions chacun souhaité exprimer notre passion pour Michael Jackson avec la réalisation de sites web respectifs. Il y avait on s'est rencontrés parce qu'il y avait un socle fort qui était de se concentrer uniquement sur la musique de Michael Jackson. Donc on s'est rencontrés. Dès lors, on a créé une communauté, un forum, qui en 2004, qui s'appelle, avec Arnaud Dacosta et Julien Ombredan, on était quatre, qui s'appelle MG Street, sur lequel on partageait justement toute la passion qu'on avait autour de la musique de Michael Jackson. Et ce forum est devenue association aujourd'hui, puisque MG Street est une association loi 1901 qui a pour but, eh bien, de valoriser l'imagerie de Michael Jackson. Et donc, de façon régulière, on publie des magazines, on organise des événements où se rassemblent les passionnés de la musique de Michael Jackson. On permet des rencontres avec ses collaborateurs, avec les musiciens, les collaborateurs, pour que toujours l'ingéniosité de l'art de Michael Jackson, eh bien, soit pérenne.
Et ça continue à être très présent dans votre vie, c'est-à-dire vous continuez à écouter Michael Jackson comme lorsque vous étiez jeune, adolescent ou juste jeune?
Alors, on l'écoute différemment. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce qui me concerne, mais je pense que pour François, je pense aussi, là-dessus, tu vas me rejoindre, ça a aussi été, et c'est toujours une porte ouverte vers d'autres univers musicaux. C'est-à-dire qu'à partir de Michael Jackson, on s'est intéressé à des tas de musiques. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, perpétuel. Et on part du principe qu'évidemment, on sait peut-être beaucoup de choses sur Michael Jackson, mais on ne sait pas tout. Et chaque jour, et des fois, il nous arrive de faire des découvertes, et notamment en écrivant le livre, on a fait des découvertes où on est parti de choses qui étaient peut-être pour nous des informations voilà qui étaient gravées dans le marbre, mais finalement on s'est rendu compte en creusant et en enquêtant et en croisant les sources et en rencontrant les collaborateurs, en faisant des interviews, on a fait voler certaines certitudes un peu en éclat et pour notre plus grand bonheur parce qu'en croisant
par exemple
Sur Billie Jean, après, si vous voulez, après la disparition de Michael Jackson, jamais autant de collaborateurs n'ont échangé autour du processus créatif de Michael Jackson. Avant, c'était un peu de son vivant, une recette qui était gardée un peu secrète. Et si vous écoutez ça et là, les collaborateurs, Quincy Jones en fait partie, hein, sur Billie Jean, il s'était réapproprié quelques compositions. Et nous, on a rencontré la personne qui était à la base même de la création de la chanson, qui s'appelle Bill Wofford, qui nous a expliqué minute après minute comment le processus. Michael Jackson n'était pas, il ne jouait pas d'instrument. Chaque fois quand il avait, pour Billie Jean, par exemple, il avait la chanson intégralement et chaque piste de la chanson dans son esprit. Et donc il convoquait des musiciens et Bill Wofford a été ce musicien qu'il a convoqué pour mettre sur partition chacune de ses idées musicales. Et il nous a raconté ça de façon très très précise. Et on a pu, eh bien, réécrire complètement depuis le début l'histoire de la chanson Billie Jean.
Voilà, Michael Jackson, qui n'était pas musicien, mais qui était auteur, compositeur, arrangeur.
Tout à fait. En fait, sa grosse particularité...
C'est un paradoxe, non?
Oui et non, parce que c'est pas le seul comme ça. Il y a aussi d'autres artistes, comme Paul McCartney, qui s'est parlé d'une partie sauf et qui vous dit toujours, voilà, moi, je suis pas musicien, j'ai pas suivi une formation classique, mais je suis tout autant musicien. Michael Jackson avait cette particularité de faire sur des mini-cassettes des démos où l'enregistrer à part la basse, les percussions, les lignes de violon, la mélodie. Et après, il demandait à des ingénieurs du son dans son home studio, enfin dans son studio personnel, de mettre tout ça en forme. Bill Wofford a fait partie de ces personnes effectivement sur Billie Jean dès le départ. Mais après, ce qui est intéressant, et autre aussi découvert dans le livre, c'est que plus tard, aux alentours des années bas, donc on est en 85, 6, 7, il rencontre un musicien qui s'appelle Christopher Carroll et qui va lui apprendre, là pour le coup, à se servir du 5 clavier, qui est un synthétiseur qui permet d'émuler, de créer des sons à partir de sons de la vie quotidienne qu'on peut commencer à sampler dans la machine. Et donc, il va lui apprendre à se servir de cette machine. Et ça, c'est le moment où Jackson va commencer à s'émanciper aussi musicalement. Et c'est à partir de là qu'il va travailler vraiment seul et qu'il va notamment ne plus travailler avec Quincy Jones, c'est ça.
Revenons vers les premières années de Michael Jackson, quand il est juste un chanteur, la voix de Michael Jackson. On la reconnaît à peine, la voix de Michael Jackson dans ce morceau. C'est une voix androgyne, déjà.
Oui, alors Michael Jackson, c'est une voix... Justement, on est justement à la période où il vient tout juste de passer l'adolescence. Et donc, une voix qu'il a du mal à placer sur certaines, notamment on l'entend déjà sur plusieurs chansons, notamment Music and Me, où les prises seront un petit peu compliquées à mettre en place. On devra faire plusieurs prises parce qu'il y a cette voix d'enfant, cette voix qui mue et qui trouve pas vraiment sa pleine mue. Et vous savez, le public aussi aime tellement les Jackson 5, etc., qu'il y a eu aussi cette volonté aussi, et peut-être ce passage qui a été difficile de passer à l'adolescence, qui a fait que ce grain fluet lui est resté pour l'ensemble de sa carrière.
En tout cas, ces chansons qui ne sont pas très connues, ces chansons justement du passage à l'âge adulte, ce sont des chefs-d'œuvre quand on les écoute aujourd'hui. Mmh. Cette chanson, One Day in Your Life, est vraiment le top de ce que pourrait être la bonne musique pop américaine.
Tout à fait. Alors, surtout que cette chanson est extraite d'un album qui s'appelle Forever Michael, qui est le dernier album solo de Jackson chez Motown, et qui naît dans un contexte incroyable, qui est passionnant quand on regarde ça aujourd'hui. Parce que premièrement, à cette époque-là, Motown se désintéresse de la musique et va plus vers le cinéma. Donc Berry Gordy est très loin de ces affaires-là. Donc il délègue tout ça à des producteurs. Et la cuisine de cet album, en fait, c'est une cuisine entre différents pools de producteurs. Et là, notamment, c'est une production de Sam Brown qui va en fait permettre à Michael Jackson de livrer quand même, l'air de rien, une ballade mélancolique qui tend déjà vers un registre plus adulte, avec des longues notes, des guitares arpégées. Enfin, des choses très intéressantes.
Et il sort du répertoire dit de musique noire américaine, parce que là c'est de la pop déjà. Ouais. Il va devenir le roi de la pop tout de suite après, bien sûr, quand il avec des albums plus personnels qu'on connaît un peu mieux, puisqu'ils ont été des grands succès. Mais là déjà, est-ce que c'est pas le Michael Jackson qui va étonner son monde? Qu'il est pas déjà là?
Il est bourgeonnant, il est là, mais ce Michael Jackson là, il va faire sa mue grâce aussi à la musique soul, mais surtout au disco. Avec ses frères, les Jacksons, parce qu'après les Jackson 5 quittent Motown pour CBS et deviennent donc les Jacksons. Cette musique disco va leur permettre d'être un terrain de jeu et un terrain expérimental grâce auquel ils vont réussir à contrôler enfin leur musique avec l'album Destiny en 78, donc 3 ans après le morceau qu'on vient d'écouter. Et surtout après arrive Quincy Jones sur le tournage du film The Wiz, et c'est là où vraiment la naissance, on va dire l'année zéro du roi de la pop commence, quoi. C'est à partir d'Off the Wall.
Richard Lecoq et François Allard sont avec nous. Ils publient chez EPA un livre autour de toute l'œuvre de Michael Jackson, la totale Michael Jackson, 263 chansons, 41 clips. Et la semaine prochaine, c'est Michael Jackson on the Wall. C'est le nom de l'expo qui va s'ouvrir donc le 23 novembre au Grand Palais. C'est une expo très attendue puisqu'elle propose d'explorer l'impact culturel de la personnalité et de l'œuvre de Michael Jackson dans le champ de l'art contemporain, c'est-à-dire comment il a pu influencer des artistes comme Andy Warhol, pour commencer, jusqu'à David LaChapelle, en passant par d'autres, bien sûr. Est-ce que lui-même, il a été influencé?
Bien sûr que oui, et par des artistes déjà dans le monde de la musique. Donc, tout à l'heure, j'en parlais, il y a donc de James Brown, aussi Sly the Family Stone, le son aussi des Beatles. C'est très vaste, ça va même aussi dans la musique classique, parce que nous, on a découvert, et ça, c'était extrêmement intéressant, qu'il était aussi intéressé par des compositeurs français comme Duruflé, qu'il va même intégrer dans sa production, en prenant une pièce.
Et là, vous parlez de Michael Jackson, producteur, parce que je suppose que les premières années de Michael Jackson, quand il était à la Motown, il ne faisait qu'appliquer ce que Benny Gordy lui demandait de faire.
Tout à fait. Et là, les idoles, c'est Diana Ross, c'est Stevie Wonder. Stevie Wonder avec qui il va tisser un lien tout au long de sa vie. Je pense que François est d'accord avec moi là-dessus.
Bien sûr, oui.
François Allard,
oui. Stevie Wonder, c'est le fil rouge de la carrière de Michael Jackson. Il est là à chacune des étapes. C'est le mentor de Michael Jackson. Il est en studio avec Stevie Wonder, il observe sa façon de travailler, ses techniques, comment enregistre-t-on un titre, et jusqu'au bout, et ils ont partagé bien sûr énormément de duos. Stevie Wonder a offert de magnifiques chansons comme I Can't Help It. Il va écrire pour les Jackson 5 du début à la fin de la carrière de Michael Jackson. Stevie Wonder est toujours là.
Comme vous êtes deux fans de Michael Jackson, vous vous êtes arrangé pour aller voir l'expo Michael Jackson on the Wall à Londres, puisqu'elle va faire le tour de l'Europe. Ça a commencé à Londres cet été. Elle arrive la semaine prochaine à Paris, avant de continuer le périple du côté de l'Espagne, tout de suite après Paris. Qu'est-ce qu'on voit dans cette expo?
Alors, l'expo part du principe simple, c'est un constat qui a été fait, c'est que Michael Jackson est apparemment l'artiste qui a le plus influencé justement les artistes d'un contemporain et qui a eu un impact au niveau de son image, donc visuelle, très fort sur beaucoup d'artistes. Donc dans l'exposition, on retrouve des artistes avec lesquels il a collaboré de son vivant, je pense à Andy Warhol. Donc il y a tout un corner qui est très intéressant, où on voit la correspondance Jackson-Warhol, comment l'un et l'autre se sont vraiment étudiés pendant de nombreuses années. Et après, des œuvres annexes qui ont été, pour certaines d'entre elles, commandées pour l'exposition, d'ailleurs, qui ont été réalisées donc à titre posthume, et puis d'autres qui ont été faites de son vivant. Je pense bien sûr à la toile de Mark Ryden, qui en fait a servi pour la pochette du disque Dangerous.
Voilà, et cette exposition, vous l'avez donc vue, Richard Lecoq, à Londres, et contrairement à ce qui était attendu, ça n'a pas été un succès, on peut le dire. On en parlera sur France Culture la semaine prochaine, dans l'émission La Grande Table d'Olivier Jesbert, mais comment expliquez-vous l'échec de cette exposition? Est-ce que Michael Jackson, le son Michael Jackson, appartient au siècle dernier et qu'on est passé à autre chose?
Alors, je pense pas que ce soit la seule réponse, en tout cas le seul élément de réponse. Moi, j'ai l'impression que l'attente autour d'une exposition consacrée à Michael Jackson, c'est comme celle pour David Bowie, c'est de découvrir l'univers de la star, observer et voir peut-être des costumes de scène, des paroles manuscrites, des chansons, des choses comme ça, parce qu'on se rend compte que notamment, et on se rend compte aussi à Las Vegas, il y a un show en résidence consacré à Jackson qui ne désemplit pas et qui est là depuis plusieurs années, donc qui marche très bien. On se rend compte que dans les top streaming, dans les artistes les plus streamés à l'année, Jackson reste quand même dans un peloton de tête très convenable pour un artiste décédé maintenant depuis près de 10 ans. Et on se rend compte que c'est aussi quelqu'un, là Forbes vient de le dire encore, c'est l'artiste décédé qui génère le plus de revenus encore en 2018-2019. Donc il y a vraiment encore une franchise forte au niveau de Michael Jackson, mais c'est comment on la décline. Comment on décline un artiste qui a eu 40 ans de carrière, comment on le présente à un public et comment on transmet ça aux nouvelles générations. Donc après, peut-être que l'accès via la porte de l'art contemporain était un peu plus difficile. C'est peut-être ça la réponse. En tout cas, l'expo a de très beaux tableaux, de très belles choses. Mais c'est vrai que moi aussi, les retours que j'en ai eus, et pour en avoir parlé avec des gens qui sont aussi bien fans que non fans, c'est qu'ils pensaient voir aussi un peu autre chose. Ils pensaient voir plus de choses lié directement à Michael Jackson.
Et à sa musique, je suppose.
À sa musique, à son art. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a réussi à faire dans le livre, parce que normalement, la totale, la collection ne se consacre qu'aux chansons. Et nous, on est parti du principe que la musique et l'image de Jackson sont intimement liés. Et il a fait d'ailleurs ce travail lui-même, sciemment, de tisser ce lien entre la musique et l'image. C'est peut-être un petit peu le premier artiste multimédia, en fait, Michael Jackson.
Est-ce que ça fait maintenant des années que vous vous occupez de Michael Jackson, que vous consacrez votre temps à Michael Jackson, son œuvre, plutôt que sa vie, d'ailleurs, votre site est très musical, c'est-à-dire c'est pas la vie. Est-ce que vous avez la réponse à la question que vous êtes posée, pourquoi lui? Pourquoi on est attiré par Michael Jackson? Qu'est-ce qu'il nous dit? On va commencer par vous, François Allard.
Ouais. Moi, j'ai toujours été passionné par le fait, voilà, je voulais savoir comment une star, eh bien, cette star, avait atteint un niveau aussi impressionnant. Toute ma vie, je me suis consacré à décortiquer le phénomène Jackson. Pour moi, il fallait absolument savoir pourquoi, comment le phénomène Jackson était né. Et je parle toujours et souvent de cercle vertueux. Ce sont plein de petites... plein de collaborateurs, ils sont innombrables, qui ont permis l'ascension. Alors bien sûr, il y a eu un espace-temps favorable à cela, une époque, une économie du disque aussi favorable, qui ont permis l'émergence de Michael Jackson.
Mais il y a eu de votre part une identification avec Michael Jackson?
Ah non, jamais.
Et vous-même, Richard Lecoq? Vous avez posé la question, pourquoi Michael Jackson comptait à ce point dans votre vie? Pourquoi vous ne l'avez pas oublié à la fin de votre adolescence?
Alors justement, là-dessus, j'ai une petite anecdote, c'est que il y a eu les années Thriller qui étaient extrêmement importantes en France. D'ailleurs, c'est l'époque où la France découvre Michael Jackson, parce qu'avant, Thriller, il est très peu connu. Et en fait, il y a eu tout ce moment de creux où on l'a pas revu avant Bad. Donc, c'était très long. Quand vous êtes gamin, vous avez 10, 11 ans, c'est très long. Mais je me suis dit, non, il va revenir, il va être là, il va revenir, il y aura pas de souci. Et en fait, j'ai écouté beaucoup d'artistes, notamment grâce à lui, mais aussi parce que voilà, j'aime la musique de manière générale, donc j'ai pu écouter de différents artistes, aussi bien la scène rock, pop, électronique, soul, R&B, hip-hop, mais à chaque fois je reviens toujours à lui, et même des fois du coup je croise la route, parce que j'ai pu faire aussi des interviews de beaucoup d'artistes, et en fait vous parlez des fois avec des gens que vous admirez, que vous trouvez absolument incroyables, et...
C'est incroyable, vous répondez pas à la question tous les deux, mais pourquoi Michael Jackson?
Non mais justement j'y viens, parce que eux-mêmes ils vous parlent de Michael Jackson comme une référence ultime. Nous, on a beaucoup parlé aussi avec son chorégraphe Vincent Patterson, qui nous parlait de Björk, avec qui il a travaillé. Et Björk, c'est une femme.
Il vous parlait, Michael Jackson, plus que les autres? Il vous parlait plus que les autres?
Oui, parce qu'en fait, il me parlait beaucoup plus, parce que finalement, c'était toujours un cran au-dessus dans tous les niveaux. Les standards étaient toujours les plus élevés, et c'était incroyable de voir à quel point il a réussi à inscrire une vraie démarche artistique dans un cadre économique du monde du disque qui était encore très porteur à l'époque. Et il a réussi à en faire quelque chose qui reste aujourd'hui. Parce que quand on regarde finalement aujourd'hui, on est en 2018, vous écoutez certaines chansons et elles sont toujours tout à fait crédibles et ça sonne toujours bien.
Mais on peut pas dire la même chose pour les clips, par exemple. Tous ces clips, le Thriller réalisé par John Landis qu'on trouvait merveilleux à l'époque quand on est enfant. Oui, aujourd'hui, quand on regarde, oui, on sourit un peu, non?
On sourit un peu, mais ça reste. Halloween, c'est Thriller. Vous regardez partout et c'est pas nous parce qu'on a peut-être nos visions, on aime beaucoup, mais regardez dans les classements iTunes, la vidéo elle est toujours là sur YouTube streamée à fond, c'est incroyable.
Merci François Allard et merci Richard Lecoq d'être venu nous parler de votre livre consacré à Michael Jackson. La totale, c'est chez EPA. Et puis l'expo Michael Jackson on the Wall, c'est la semaine prochaine au Grand Palais à Paris. On aura l'occasion d'y revenir. Belle matinée. You